BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous, 20h pile en ce 27 mars 2024. Bienvenue sur BFM Business et merci d'être là, fidèle à Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, on est en direct chaque soir, 20h, 21h30, radio, télé. Et puis pour tous ceux qui ont envie de nous écouter en liberté quand ils le veulent, les replays et les podcasts qui sont disponibles juste après la diffusion de cette émission. Avec en ce mercredi soir, au sommaire de ce Tech & Co, on va revenir sur une annonce, la WWDC. Ça y est, on connaît la date, ce sera en juin. Apple joue gros avec cette conférence parce que, en théorie, l'IA devrait être à l'ordre du jour. On parlera aussi de l'anonymat sur Internet. Va-t-on arriver à pister les comptes anonymes sur les réseaux sociaux? Là aussi, on va débriefer là-dessus. Et puis notre rendez-vous Tech & Ciné, comme chaque mois, avec Xavier Perret. On évoquera l'IA générative dans les films à Hollywood et vous verrez qu'il y a énormément d'exemples sur ce sujet. Voilà quelques-uns des thèmes qu'on va aborder ensemble. Merci d'être là, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, c'est parti.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu avec du beau monde ce soir, mesdames, messieurs. Je l'ai dit tout à l'heure sur la petite vidéo réseaux sociaux, c'est un casting 5 étoiles. Rendez-vous compte, Marjorie Paillon. Salut Marjorie.
Je suis la 5e étoile, c'est ça? Ou la première, je ne sais pas.
La première étoile. En tout cas, tu es notre étoile.
Oh, c'est voilà. Beau. Oh, c'est beau ce qu'on est là.
La 5e, on verra.
Le cœur aussi.
Merci.
Très joli pull si vous êtes avec nous à la télé. Ouais, en tout cas, si vous n'êtes pas avec nous à la télé.
Petite marque est extrêmement sympathique.
Très bien. À côté de toi, c'est Didier Sens. Donc casting 5 étoiles, Didier, journaliste dédié à la tech depuis quelques années, et en face de vous, Jérôme Colombin. Salut Jérôme.
Salut François, bonjour
voilà,
à tous.
Voilà, que vous connaissez aussi, journaliste et podcasteur, voilà, vous pouvez le retrouver avec son média, le monde numérique, des podcasts, des interviews, plein de choses.
Des vidéos.
Voilà, des vidéos.
5 étoiles, les toilettes, master bedroom, tout ce que tu veux.
Exactement. Bon, messieurs, dames, on va passer cette petite heure ensemble jusqu'à 21h pour débriefer l'actu. On va parler réseaux sociaux avec voilà, ce serpent de mer de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, encore les politiques s'emparent de ce sujet. Est-ce qu'on va y arriver? Ça me paraît compliqué, mais voilà. Le réseau Truth Social de Donald Trump. Ben voilà, ça marche bien. Et l'entrée en bourse est vraiment plutôt très très bonne. On va en parler tout à l'heure. On parlera aussi beaucoup cybersécurité. Les emplois anglo-saxons qui pourraient être, on va dire, menacés à cause de l'IA. Et on parle de 8 millions d'emplois. Hein. C'est quand même assez étonnant. C'est Marjorie qui a sélectionné ce sujet. Et puis on terminera, si on a le temps, avec le dernier clip de Big Flo et Oli. Vous savez que Big Flo et Oli cartonnent en ce moment. Alors évidemment, ils sont juges à The Voice. Mais voilà, ils font plein de tubes. Et leur dernier titre, en fait, est un clip qui a été réalisé par l'intelligence artificielle. Ça fait un peu le débat, ça fait parler. Et Didier voulait évoquer ce sujet avec nous. Mais pour débuter donc, on le disait, la WWDC, c'est la conférence des développeurs qu'Apple nous propose chaque année. C'est le 10 juin, je crois, c'est ça. Hein, voilà, le 10 juin prochain. À Cupertino, dans le fief d'Apple, hein, dans l'Apple Park. Et alors, pourquoi on parle d'une annonce qui aura lieu le 10 juin? C'est pas qu'on est complètement débile et fou d'Apple, c'est que cette WWDC va avoir peut-être un goût un peu particulier, parce que Apple devrait faire sa transformation dédiée à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on attend. Alors, bien sûr, cette WWDC sera à vivre dans Tech & Co sur BFM Business, mais d'ores et déjà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que cette WWDC va être un peu le nouveau départ d'un Apple qui est quand même un peu chahuté, hein ? Il y a le DMA.
Ils sont très très en retard sur l'IA. C'est impressionnant d'ailleurs, parce que eux qui sont toujours, qui rattrapent le coche régulièrement, oui, et en apportant souvent une patte plus originale, là ils ont été complètement largués par l'arrivée de l'IA générative. Siri n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un assistant personnel. Alors pourquoi on en parle à la WWDC? Parce que c'est le lieu où se rencontrent tous les développeurs, donc il faut leur montrer, il faut qu'Apple leur montre un peu les pistes de développement sur lesquelles vers lesquelles s'oriente la marque.
Rappelons que l'année dernière, c'était durant la WWDC qu'ils avaient annoncé le Vision Pro.
Absolument. Donc ils en profitent pour montrer un peu les voilà, donc oui, ces nouvelles directions. On parle assez rarement de matériel, c'est pour ça que c'était intéressant l'année dernière qu'ils parlaient du Vision Pro. Ils ont il y a quelques années en avant, ils avaient montré aussi d'autres choses, le Mac Pro, etc. Donc c'est d'habitude dédié aux OS. Donc on va parler de macOS, on va parler de iOS, on va parler de iPadOS, de WatchOS, etc. Et ils sont obligés de dire qu'ils ont entendu leurs clients et leurs développeurs leur parler d'IA. Donc ils vont être obligés d'avoir des sujets. Sous quelle forme, ça reste encore à explorer. On sait qu'ils ont racheté une petite entreprise spécialisée dans l'IA générative. On sait qu'ils seraient en pourparler avec Google pour étudier la faisabilité d'utiliser Gemini. Ce qui ne serait qu'une solution transitoire, puisqu'on sait qu'Apple est très jaloux de ces technologies et qu'en général...
Ils aiment bien faire tout maison dans sa marmite. Hein.
Ils ont fait leur processeur pour éviter l'emprise d'Intel, ils ont fait leur OS depuis des années, donc ça ne serait que transitoire. Et on est très curieux donc de voir arriver un Siri qui serait enfin intelligent.
Oui. Parce que pour aujourd'hui, c'est pas un assistant personnel, c'est plutôt un assistant impersonnel, hein, Siri. Hein.
Ah là, il est aux abonnés absents.
Il est abonné à ça. Enfin, un peu comme Alexa d'ailleurs et Google, parce que c'est vrai qu'on pointe du doigt Siri, mais les autres sont pas vraiment plus intelligents. Hein. Pas encore, si ?
Ouais, je sais pas. Enfin, moi, Siri, je le mets vraiment en bas de la liste.
En bas de la liste, ouais, d'accord.
Mais c'est vrai que cette WWDC, alors le slogan, parce qu'il y a toujours la phrase choc, la punchline, c'est « absolutely incredible ». Avec un A majuscule, un I majuscule, qui rappelle
bizarrement.
Curieusement le AI. Alors tu as raison de dire qu'on les attend sur l'intelligence artificielle, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se trament. Google, Gemini, peut-être, mais aussi peut-être Anthropic, peut-être OpenAI. Et il y avait un papier assez intéressant de Mark Gurman de Bloomberg, là, qui est le journaliste américain très bien informé sur Apple, qui émet plusieurs pistes et qui explique notamment pourquoi Apple pourrait décider de sous-traiter, en quelque sorte, au moins temporairement un chatbot à l'une de ces marques, ben c'est parce que ça présenterait différents avantages. Des avantages comme, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a encore plein d'incertitudes sur les droits d'auteur, les questions éthiques, etc. Et ben là, Apple s'enlèverait les mains, puisque finalement, c'est pas lui qui s'en occuperait, ce serait son sous-traitant. Idem, des choses toutes bêtes, mais la ressource, la puissance, les data centers, il faut les mettre en œuvre, il faut les faire... Ben c'est pareil, c'est pas Apple qui s'en occuperait.
En revanche, ça risque de leur coûter cher.
Ah, ça
la
peut
prestation,
leur...
enfin, ils n'ont pas, ils ont pas de problème là-dessus.
Ils n'ont pas de problème là-dessus. Clair, et puis clair. Apple, Google, si c'est, ça devait être Google, leur verse déjà, c'est quoi, 20 milliards par an de 20 000, je sais
Moi,
plus.
Je crois que c'est entre 15 et 20 milliards, ouais, c'est
20 milliards par an pour être le
pour
moteur,
être le
de,
moteur
recherche,
de recherche par défaut dans par Safari. Défaut,
ouais. Mais juste pour finir avec Gurman, il pose une question intéressante. Il dit, mais au fond, peut-être qu'Apple ne croit pas au chatbot d'intelligence artificielle. En tout cas, ne croit pas à l'heure actuelle à la réussite économique et au modèle économique des chatbots. Et c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'ils y vont sans y aller. Donc on a quand même hâte de voir où ils vont aller.
Je ne partage pas du tout cette analyse, parce que depuis le début, Apple a toujours été, a toujours voulu créer son assistant personnel. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 90, ils avaient créé le Knowledge Navigator. Tu te rappelles de cette vidéo où on voyait un bonhomme qui parlait avec son... ce qui n'était pas encore une tablette tactile, mais qui était
incroyable,
un outil
vidéo,
comme ça.
Très visionnaire.
Voilà.
Hein, avec,
Et on voyait très bien ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'ils ont créé Siri, c'est pour ça que même au début, à l'époque du Mac, il y avait aussi une interface vocale qui exécutait les commandes qu'on lui donnait. Donc ils sont très très branchés là-dessus. Je pense qu'ils sont...
Non mais je suis d'accord, ce serait étonnant qu'ils fassent machine arrière
aujourd'hui.
Ils peuvent
pas faire l'impasse là-dessus, ils peuvent pas.
Marjorie, est-ce qu'ils sont au pied du mur finalement ?
Alors, tu parlais tout à l'heure des développeurs, des consommateurs qui leur ont bien fait remarquer que l'IA générative n'était pas tout à fait dans la logique Apple. Il y a le marché aussi, parce qu'Apple a quand même perdu 10% de son action depuis le début de l'année 2023. Donc, il y a forcément une sanction qui va arriver. Et Tim Cook sait très bien que s'il ne met pas Apple à la page de l'IA fût-elle générative, ça va commencer à se voir. Donc, ce qu'on attend le 10 juin notamment, c'est à la fois des opportunités pour les développeurs et les développeuses s'en saisir, des OS. On nous parle même d'iOS 18 qui serait la plus grande révolution en matière d'OS pour l'iPhone existant. Donc, on va voir ce que ça donne sur les iPhone 16.
Moi, je me méfie des superlatifs chez Apple. Mais bon, on a le bénéfice du doute.
On va voir ce que ça donne pour les iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro qui doivent arriver en septembre prochain, qui devraient arriver en septembre prochain. Et puis, tout ce que ça veut dire en matière de device. Il n'y a pas d'OS sans device qui va avec. Quand on a poussé En tout cas, sur cette première partie de saison Apple Vision Pro, et qu'on essaie justement de donner le là de cette informatique spatiale, de la mixer avec du contenu, avec du divertissement, avec de l'entertainment, avec, pourquoi pas, soyons fous, de l'IA à un moment donné, qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce que Vision OS peut justement offrir à ses développeurs et à ses développeuses en matière de créativité. Donc ça, ça va être intéressant à voir. Et puis... En effet, ça va nous permettre de réussir à comprendre si les rumeurs sur l'alliance et le deal avec Google pour Gemini, sur le deal avec, avec OpenAI pour ChatGPT sont réels ou pas. On va voir jusqu'à quel point aussi ils peuvent s'interfacer. Il y a deux choses que tu disais, Jérôme, qui sont fascinantes. C'est en effet le fait que
pour
peut-être...
Pour une fois qu'il dit quelque chose
de fascinant, c'est rare. Qu'il dit quelque chose de fascinant, absolument. Non, non, mais c'est le fait aussi que Tim Cook et toutes les big tech anticipent finalement les coûts de régulation qui arrivent a posteriori. C'est-à-dire que là, si vous avez une vraie grosse alliance avec Google pour Gemini, pour intégrer Gemini dans les OS et les devices Apple, il y a quand même juste la Commission européenne d'un côté et puis quand même la FTC de l'autre côté États-Unis qui va regarder en se disant, dites donc, ça c'est quand
ça
même...
Ça fait pas un peu too much?
Ça s'appelle un futur abus de position XXL. Et c'est intéressant, donc on va regarder ça de près. Donc je pense en effet que ça va être intéressant pour Apple de pas mettre ses œufs IA dans le même panier, donc diversifier au maximum les interopérabilités qu'ils peuvent faire avec d'autres solutions d'IA générative et voir comment ils peuvent justement éviter ces choses trappes en matière de régulation à venir, parce que ça aussi, ça leur pend au nez.
Ce qui est intéressant, c'est que y a déjà des précédents de smartphones qui ont vu leur IA arriver. Samsung a dégainé le premier avec un Galaxy S24 qui était boosté à l'intelligence artificielle. On s'est dit, bon, c'est peut-être du marketing, etc. Ben, pas du tout. Les ventes de S24 ont explosé.
Oui, voilà. Enfin, le rapport de cause à effet.
Bah, pourquoi pas. Tu te dis, c'est peut-être parce que justement, et je sais pas si tu as vu les pubs qu'il y a dans les magasins et trucs comme ça, c'est Samsung Galaxy 24 boosté à l'IA, etc.
Et avec Gemini en l'occurrence.
Et avec Gemini, oui, et voilà, ils ont travaillé avec Google pour apporter leur IA, mais on a l'impression que c'est aussi un argument de vente supplémentaire sur un marché du smartphone qui s'essouffle, où tous les smartphones se ressemblent, ils font tous de belles photos maintenant, ils ont tous une autonomie correcte. Voilà, et là c'est un petit différentiel chez Samsung qui apporte quelque chose. Et d'ailleurs, Honor vient de sortir un nouveau téléphone. Pareil, il communique sur l'intelligence artificielle. Donc, si Apple, qui voit un peu ses petits copains, bien voilà, rebooster leurs ventes simplement en communiquant sur l'intelligence artificielle, là, ils vont être, à mon avis, ils sont au pied du mur, quoi.
Ouais. Non, mais c'est intéressant. On peut penser que l'IA fait vendre, en fait. Et ça, il y a une appétence, il y a une curiosité. Tout le monde entend parler d'intelligence artificielle depuis un an.
C'est vraiment le truc hype, en plus.
Voilà.
Au-delà des usages, voilà.
Et c'est drôle parce que je pense qu'il y a une partie des gens qui ont un peu peur, évidemment, enfin, voilà, pour X raisons. Mais il y a aussi beaucoup d'intérêt, beaucoup d'appétence. Et oui, le S24, c'est certainement un des facteurs de séduction. Hein.
Après, on le dit souvent, il faut éviter de jouer aussi au bingo blabla et au buzzword à l'envi dans des grandes périodes comme ça de mode et de trend technologique.
Ouais.
Mais j'écoutais Anthony Morel, autre personnalité fascinante, n'est-ce pas, qui, il y a quelques jours, donnait cette info absolument dingue. La SEC ayant sanctionné deux boîtes de fintech aux États-Unis pour avoir trop vanté leurs outils d'intelligence artificielle générative, qui en réalité n'étaient pas réels. Et donc, tromperie sur la marchandise en quelque sorte. Et ben ça aussi, ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Apple va pouvoir rendre lisibles les features avec de l'IA générative, concrètement, si je booste mon smartphone, mon iPhone à l'IA générative, ça me donne quoi pour moi en tant qu'utilisateur utilisatrice, comme rapidité d'interaction, comme facilité de connexion.
Bah déjà Siri, si on a un Siri un peu plus intelligent, ça serait cool.
Mais même Luc Julia dit que Siri est le logiciel le plus bête qu'il ait jamais
montré. Oui, c'est ça. Et il disait, on lui avait posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un peu d'intelligence à Siri? Il a dit, il faut tout changer. Parce qu'en fait, toute la structure de Siri a été faite il y a des années, et voilà, il faut repartir d'une page blanche et réinventer Siri, et ça prend des années et des années. C'est peut-être pour ça aussi qu'Apple se précipite vers des sous-traitants d'IA, parce qu'ils sont pas prêts. Et je pense que c'est ça aussi. On a vu qu'il y avait des mouvements de personnalités de l'IA qui arrivaient chez Apple.
Ils ont arrêté la voiture, et notamment pour, enfin, ils en ont profité pour basculer les équipes sur l'IA.
Oui, mais bon, tu sors pas un large language model comme ça en 6 mois. C'est pas possible, même si tu t'appelles Apple.
Comment ça montrer et sur les blogs, ils commencent à montrer un peu des expériences qu'ils font, notamment sur la reconnaissance d'image, sur la description d'image, etc. Ils travaillent sur le sujet, voilà.
Et ouais. Puis, oui, mais il y a même on parlait d'un papier de recherche qui était, paraît-il, hyper prometteur sur leur modèle qui s'appelle, je sais plus comment.
Ajax.
Non. Ça doit s'appeler LMA, en cours MMA ou MM1, je ne sais plus.
Et, ouais.
et qui, surtout, serait multimodal. C'est ça, c'est le nouveau graal de l'IA.
Audio, vidéo, écrit.
C'est multimodal en entrée, en sortie. Je peux te faire du texte, de l'image et de la vidéo, mais aussi je peux te reconnaître du texte, de l'image ou de la vidéo. Mmh. Avec, on te montre une bouteille de bière et un ticket de caisse, et l'IA arrive à comprendre le prix de la bouteille de bière, en fait. Mmh. Ça, c'est
pas mal.
C'est un cap intéressant.
Donc, en fait, c'est quasiment un smartphone figuré AI.
Exactement.
On a été fascinés par cette vidéo avec l'incorporation de ChatGPT dans Figure One, qui est le robot humanoïde.
Qu'on avait commenté et qui était
absolument
impressionnant, c'est vrai.
On a eu très peur.
Ce truc-là, c'est incroyable, ce robot qui répond
et surtout,
au doigt et à l'œil à ce que lui dit l'humain, c'est fou, quoi.
Ouais. Une question de rapidité
qui est assez impressionnante. Bon, on verra bien, mais c'est vrai qu'on se dit toutes ces fonctions IA sur l'iPhone, ça pourrait être quoi? Si on regarde ce qui se passe sur le Galaxy S24, c'est la traduction en temps réel si vous appelez un étranger. Mm-hmm. Voilà, vous êtes en train de dialoguer avec lui et vous avez un interprète géré par l'IA qui vous traduit tout ça.
Ce que propose à peu près le S24,
d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Ben voilà. Il y a aussi des systèmes de résumés, de conférences, enfin des choses d'ailleurs qu'on peut avoir sur l'iPhone en installant des applis, parce que tout ça existe déjà. Vous pouvez installer ChatGPT sur votre iPhone. Enfin, il y a plein de choses qui sont déjà fonctionnelles, mais pas dans le dur du téléphone.
Voilà. Je pense que maintenant on va passer.
En plus, je pense que Apple est assez pointilleux là-dessus. Donc, ce qu'ils aimeraient, c'est sans doute que les traitements se fassent en local au lieu d'aller se balader sur le cloud.
C'est ça. Oui. Autre débat, ça.
Safety first.
Non, mais ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a maintenant ce qu'on peut faire. Donc, c'est l'étonnement sur ce qu'on peut faire, mais on va vite arriver à. Ok, mais il faut le faire bien, quoi. C'est pas le tout d'avoir un traducteur ou d'avoir, mais il faut qu'il soit parfait, le meilleur, parce que les assistants vocaux c'était fascinant au début, mais aujourd'hui on est tous à dire qu'ils sont pas bons, que Siri est nul, etc. On devient de plus en plus exigeant.
Bon, alors sur le tableau blanc du bureau de Tim Cook, il y a mettre de l'IA à fond dans l'iOS 18. Il n'y a pas que cette ligne, il y en a d'autres.
Trouver le des DMA. Trucs à faire avec.
Qu'est-ce qui m'emmerde ces Européens, je pense, d'avoir ça.
Oui, vous êtes oui.
Et c'est dessous, Europe. Peut-être, le gouvernement européen et le gouvernement américain qui m'ennuie un petit peu aussi, pour rester poli. Hein.
À cause sans doute des Européens.
Oui.
À cause sans doute des Européens. Alors, on en parle quasiment tous les soirs dans Techno, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, on va dire que Apple est en train de vivre une période qu'il n'a jamais vécue et qui risque de transformer profondément cette boîte? Ou est-ce que vous pensez que finalement, ils ont tellement d'avocats, tellement d'argent, qu'ils vont pouvoir gagner tellement d'années avant
Ça dure un temps, l'histoire d'avocats et d'argent, mais le fait est que c'est vrai que...
On est d'accord que ça craque quand même,
oui,
dans tous les sens.
C'est tout le modèle qu'a bâti Apple depuis des dizaines d'années qui est en train d'être remis en question.
Partout, en Europe. Les États-Unis, ça commence vraiment à grincer des dents. Hein.
Bah, c'est les modèles intégrés qu'on veut voir finalement imploser. Que le régulateur, les régulateurs et régulatrices de tous les pays tentent de faire imploser pour pouvoir ouvrir, parce que c'est leur job, au maximum la concurrence. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir, parce que la question que tu poses en réalité, c'est la legacy, c'est l'héritage de Tim Cook. Est-ce que c'est un héritage purement business et régulation? Est-ce que c'est un héritage purement produit et innovation? En tout cas, pour l'instant, par rapport à un Steve Jobs, on ne peut pas dire que ce sera un héritage de progrès pur et dur. Tu sais que le progrès, c'est ce sur quoi toutes les plateformes, toutes les big tech, ce à quoi, ce rêve auquel elles ont voulu nous faire croire et auquel on a adhéré aussi, en étant fascinés un petit peu aussi par les technologies qu'elles nous proposaient au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va rester de Tim Cook? Ça, c'est vraiment la question à 1 000 $ pour l'instant.
Didier, tu avais commencé ta petite
réflexion
là-dessus.
Oui, je pense que c'est intéressant parce que c'est en fait deux idées de l'entrepreneuriat qui s'affrontent. L'idée des États, qui n'est pas la même que celle des entreprises. Encore une fois, Apple avait créé un modèle qui était qui s'est de plus en plus resserré avec ses applications, avec ses partenaires. On a parlé tout à l'heure de ses matières premières, le fait qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs processeurs, etc. Parce que Apple part du principe que Rien n'est mieux que l'intégration pour offrir le meilleur bénéfice aux clients. Ça se discute, c'est pas la question n'est pas là, mais c'est ça qu'on met en question. Donc ça veut dire c'est leur mode de pensée en fait qu'on est en train de remettre en question.
Mais c'est leur matrice.
Oui.
Après il y a aussi leur modèle économique, il y a leur modèle de pensée, et ce modèle de pensée, ça tombe bien, il fait gagner beaucoup d'argent.
Ah oui. Aussi. Ouais, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas injuste, c'est un autre débat encore.
Je ne sais pas si c'est une question si secondaire aussi. Est-ce que c'est bien ou pas bien le modèle fermé ? Parce que franchement, on pourra en débattre, avoir des avis sur la question. Ça a beaucoup d'avantages. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que il y a le côté expérience utilisateur. Ils ont toujours mis ça en avant. Oui. Mais bien sûr qu'il y a le côté prison dorée, chasse gardée. Le côté voilà, tu as l'iPhone, tu vas acheter la Watch, tu vas acheter l'ordinateur parce que tout fonctionne ensemble et le jour où on ouvre, c'est ça qu'on fait trembler. Maintenant, il y a autre chose. Moi, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de repenser aux glorieux prédécesseurs dans une bataille identique qui était Microsoft dans les années 90. La situation n'était pas la même puisque Microsoft avait essuyé les mêmes accusations, mais il n'était pas sur cette logique totalement fermée. Donc, effectivement, la donne n'est pas tout à fait la même. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des mois, des années de procédures, de batailles, etc. Microsoft a réussi à mettre de l'eau dans son vin, à se retourner, à virer de cap, les technologies ont évolué, tout a évolué. Donc Apple, on n'a pas de souci à avoir pour eux.
Non.
Ils s'adapteront, mais je suis d'accord que c'est sans doute certainement une période
super importante. Une remise en question d'un modèle quand même.
Ouais, mais enfin quand tu vois qu'aux États-Unis ils attaquent iMessage, qui devrait être compatible avec les autres téléphones et notamment les téléphones Android.
Finalement.
Ça va être un peu le cas finalement avec le RCS qui va arriver, donc peut-être qu'Apple a anticipé ce problème-là. L'Apple Watch, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Apple Watch, elle est montrée du doigt aux États-Unis parce qu'elle est vraiment dans un système fermé, dans cet écosystème avec iPhone. Et justement, le gouvernement américain aimerait que l'Apple Watch puisse être compatible avec les autres téléphones, en fait.
Encore une fois, c'est idéologique.
Oui, c'est idéologique. Ouais. Et c'est impressionnant. Et je trouve que parfois même, les décisions du gouvernement américain sont plus dures que celles de l'Europe. c'est intéressant. Ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue. Enfin bref, on verra bien. Mais sur le tableau blanc de Tim Cook, il y a 2-3 lignes quand même en ce moment. Et c'est vrai que, voilà, en plus lui, on l'a dit, hein, il compte prendre sa retraite, on ne sait pas quand. Il commence. Alors il n'est pas vieux, hein, Tim Cook, mais bon, voilà, il faut laisser la place aux jeunes, surtout dans des boîtes technologiques comme ça, où il faut être vraiment à la page, penser le coup d'après, etc. Alors même s'il est bien entouré, il va sentir maintenant qu'il faut passer la main.
Mais en plus, Apple, c'est une boîte de vieux, hein.
C'est vrai que ça a toujours été une boîte de vieux, tu as raison.
Enfin, toujours, je sais pas, mais aujourd'hui, tous les
Oui, tous les
t'as
grands.
Pas de petits génies dans le top 10
non,
management.
C'est
que des vieux de la vieille, des mecs qui étaient quasiment tous là avec Steve Jobs.
Bon, on referme la page Apple, on aura l'occasion de la réouvrir, ne vous inquiétez pas. On s'attaque à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Sujet. Ouais.
On va te régler ça très vite.
Important. Paul Midi, député Renaissance, vous avez peut-être suivi ça, c'était en début de semaine, avec 125 co-signataires, membres de la majorité, veulent que les utilisateurs des plateformes soient contraints de s'enregistrer. Donc on s'enregistre, alors soit par une interface France Identité, etc., avant d'aller sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Pour qu'en fait on ait une couche au-dessus, une espèce d'ombrelle d'identité, pour qu'on puisse vous reconnaître facilement. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là ?
Sondage à l'appui, 85%.
Mais oui, mais le sondage, il vient d'où ? Personne ne sait d'où il vient ce sondage.
Ah, le sondage qui est recité.
Tu sais quelle est la source ou pas ?
C'est pas un organisme.
En l'occurrence, Harris Interactive et l'Axel, en fait, qui il y a quelques semaines.
Moi, il y a trois choses qui me gênent dans cette histoire-là.
Trois, Didier. Je sens Didier un peu remonter les amis.
Les gens qui disent Yaka. Voilà. On va résoudre le problème de la cybercriminalité et du harcèlement sur Internet. Il n'y a qu'à supprimer l'anonymat sur Internet.
Déjà, c'est un peu comme les 3 gigas par semaine.
Voilà. Hein. Les mecs qui ont des formules toutes faites comme ça, et un problème. En plus, c'est un truc qui recycle tous les 3 ans. Hein.
Ah, ça revient régulièrement.
C'est un vieux serpent de mer.
Ça, premièrement. Deuxièmement, l'histoire de l'anonymat sur Internet, mais on est où ? Je veux dire, ce qu'il veut, c'est ficher les gens. C'est ça, en fait. C'est ficher les internautes. En fait, l'anonymat sur Internet, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas ça. On sait très bien qui sont les gens. Regarde, au procès de Magali Berda, ils ont chopé combien ? Une trentaine de mecs qui ont défilé.
Ouais.
Ok. Le procès
elle
de la
CIP.
Oui, mais parce que la loi de 2004 sur l'économie numérique a déjà paramétrer,
il y a des lois qui existent.
Tu veux savoir côté hébergeur et côté telco. Enfin,
mais c'est compliqué, c'est long, compliqué.
Attends, j'ai pas fini ma démonstration. Donc il y a des lois qui font ça. On l'a vu pour Magali Bernard, on l'a vu pour la petite comment elle s'appelle, Mila, hein, c'est ça, qui s'est harcelée.
Oui.
15 mecs qui ont défilé devant la barre, qui ont été condamnés. On l'a vu avec les trois bonhommes qui ont chopé les données de France Travail, etc. Donc on peut remonter, oui, mais on peut avoir l'identité des gens. Stop, laisse-moi finir. On le sait, c'est facile.
Attention,
le
type, marchez pas sur les pieds de Didier.
Il a une adresse IP, on remonte à son fournisseur d'accès, l'adresse IP c'est monsieur machin qui paye son abonnement à tel endroit, etc. C'est pas ça le problème. Le problème c'est les moyens et le personnel.
Ouais.
C'est-à-dire que il faut appliquer ces lois. Les lois existent. On peut savoir qui fait quoi sur Internet. Mais simplement, il faut qu'il y ait des enquêteurs. Il faut qu'il y ait des gens qui soient présents pour aller justement débusquer l'identité de ces gens et donc des moyens. Et ça, le problème, c'est là. Ouais. Donc ça sert à rien de dire. Il n'y a qu'à créer des plaques d'immatriculation pour les gens. C'est quoi ? On est où là ? Ou faire je ne sais pas quoi. Ça existe. On peut savoir qui sont les gens. On peut.
En l'occurrence, c'est déjà un argument que Paul Midi avait défendu en amendement dans la loi numérique que Jean-Noël Barrot présentait il y a quelques mois lorsqu'il était ministre délégué au numérique et aux télécommunications, je le rappelle, ça me fait toujours sourire. Amendement qui avait été lâché par la majorité et par le gouvernement en disant, mais en l'occurrence, ça existe déjà dans la régulation européenne, donc on va se faire taper de toutes les façons par la Commission, puisque y a déjà une transposition qu'on doit faire. Par ailleurs, il y a déjà 50 nuances d'anonymat ou de lever l'anonymat en ligne qui existent. Encore une fois, la loi de 2004 sur l'économie numérique qui oblige les FAI, les telcos et certaines plateformes à donner des informations d'identification d'usagers, d'utilisateurs contrevenants, en cas de cyberharcèlement, en cas de crime majeur, en cas de toutes de mes informations, tous les cas que tu as donnés sont absolument là pour en témoigner. Et puis, aujourd'hui, Marina Ferrari redit à Paul Midi et à ses co-signataires, on n'a toujours pas changé de position en l'occurrence, ce sera toujours non. C'est-à-dire que la levée de l'anonymat, le gouvernement ne la souhaite pas. Donc, c'est pas la peine d'insister, les amis, on a d'autres moyens pour pouvoir réussir à faire que l'identification des utilisateurs contrevenants puisse justement être faite. Par contre, ce que Paul Midi ajoute à ces 50 nuances d'anonymat, c'est le pseudonymat, dont il dit qu'il faut absolument ouvrir le pseudonymat pour les utilisateurs les uns entre les autres.
Il n'y a pas dit ça, hein.
Ah si, il dit ça à un moment donné, je te jure, dans la lettre.
Il dit que publiquement, le pseudonymat serait maintenu.
Oui.
Tu peux continuer à t'appeler Josette 92.
Oui,
mais
ça complètement.
C'était toi.
Mais simplement, si la police veut savoir qui est derrière Josette 92, ce serait beaucoup plus facile.
Vous savez quoi ?
Ouais.
On va enquêter sur Josette 92
pendant
l'info écho. Et on revient, parce que je sais que Jérôme a des choses à dire là-dessus. On va terminer sur la loi. Cette loi. C'est même pas une loi.
C'est un balançon
libre. Voilà. qui n'arrivera jamais. Mais on va terminer là-dessus. On parlera aussi de Truth Social. C'est l'arroseur arrosé, hein, finalement. Donald Trump, qui il y a quelques années s'était fait gicler de tous les réseaux sociaux, avait créé son Truth Social. Maintenant, ça cartonne. Il paraît qu'il est hyper riche maintenant grâce à son réseau social.
On va y revenir.
Voilà.
Il y a 50 nuances aussi de vérité là-dedans.
Et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, revient dans quelques minutes avec Marjorie, Didier et Jérôme. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, 20h35, merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, on débrief l'actu avec Marjorie Paillon ce soir, Didier Sens et Jérôme Colombin. Messieurs, dames, on termine l'anonymat des réseaux sociaux.
Ouais,
Jérôme, tu voulais nous dire un truc là-dessus.
Écoute, moi franchement, j'ai pas d'avis tranché sur cette question qui est super délicate, parce que effectivement, c'est deux logiques qui s'affrontent. Pourquoi on est contre la levée de l'anonymat, enfin pseudonymat, puisqu'il ne s'agirait pas de lever le pseudonymat, mais enfin de pouvoir identifier plus facilement les gens. C'est parce que oui, on part du principe que dans certains pays, à certains moments, certaines personnes ont besoin de se cacher pour les lanceurs d'alerte, révéler des choses, etc. Mais d'un autre côté,
il y a aussi d'autres personnes qui, tout au long de l'année, tout au long de leur vie, crash sur des collègues. Enfin, il y a.
Mais voilà, mais le, y a donc aussi, c'est le côté obscur de la force.
Le harcèlement.
Mais c'est voilà, ça. C'est ça. Et on a quand même atteint, et il se réfugie là-dessus, derrière ça, Paul Midi, c'est ce qu'il met en avant. Il est, en fait, c'est une manière de dire, attendez, ok.
Ça suffit,
quoi. On peut avoir une
vision. On va pas pénaliser tous les internautes pour des délinquants, tu vois ce que je veux dire.
Pourquoi tu dis pénaliser? Qu'est-ce qui te pénalise
Tu as déjà une carte d'identité, une carte sésame vitale, une plaque d'immatriculation à ta voiture,
t'es identifié à ta banque. Exactement où tu es.
Je veux dire,
mais c'est la même chose. Tu commets un crime dans la rue, tu te fais arrêter et tu vas en prison. Tu commets un crime sur Internet, on te lève ton anonymat et on te retrouve.
Tu parlais tout à l'heure du procès.
On va pas le faire pour tout le monde. On va pas ficher tous les gens.
Mais c'est pas plus fiché. Enfin, encore une fois, je veux pas défendre le truc, hein, mais je trouve que il faut pas avoir une position idéologique ni d'un côté ni de l'autre. Il faut vraiment réfléchir de manière pragmatique face à un problème qui est réel. Et tu disais, tu parlais du procès de Mila, des harceleurs de Mila. Ok, très bien. Mais pour un procès de cyberharceleur, il y a combien de familles qui sont confrontées à des problèmes
de famille ou d'un génie? Ça n'a rien à voir avec le fait de
l'indépendant. Des journalistes qui s'autocensurent parce que sinon ils se font harceler.
Ok, ça a à voir avec le fait qu'il n'y a pas assez de moyens et de personnel engagé dans cette lutte.
Ok, et tu vas régler ce problème-là comment?
Eh ben, je sais pas. Du coup, si. Qu'on augmente le budget, tu vois,
mais
je veux dire,
les gars.
C'est une décision politique.
C'est aussi
c'est un problème juridique.
C'est aussi peut-être de simplifier les procédures. Si un policier dans un commissariat de quartier, en trois clics, parce qu'il est policier, sous contrôle d'une autorité judiciaire, avec des traces administratives, peut savoir très vite qui se cache derrière un compte sur un réseau social, je sais pas, faut se poser la question, c'est peut-être pas absurde.
Juste un truc, regardez un petit peu la sécurité routière. Au départ, les radars n'étaient pas automatiques. Hein. Il y avait un gars qui était là avec son pistolet, il surveillait comme ça, au tournant, et de temps en temps, il en chopait un. Okay ? Alors qu'il y avait beaucoup plus de gens qui roulaient très vite. Mais il n'avait pas le temps, en fait, de recharger son machin et tout. Sont arrivés les radars automatiques. Mmh. Finalement, quand on transpose ça à Internet, c'est un peu Hadopi. Hadopi piste les adresses IP qui sont dans l'illégalité parce qu'ils téléchargent des fichiers pirates.
Et alors, où tu veux en venir?
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait très bien avoir une espèce de, si tu veux, de surveillance, mais qui soit assez light et qui permette à, je sais pas moi...
D'intervenir plus vite.
D'intervenir à des fonctionnaires,
d'intervenir plus vite.
À partir du moment où il y a quelqu'un qui remonte une information...
À me résoudre de penser que tous les gens sont coupables a priori. Je ne comprends pas ça.
C'est pas la question.
C'est ça l'idée. On va enregistrer l'identité de tout le monde, comme ça on saura si c'est eux ou pas. C'est ça l'idée. On leur demande de s'inscrire, de donner une preuve de leur identité, etc. A priori.
Avec l'adresse IP, on sait exactement que tu es derrière ton ordinateur.
Oui, parce que tu as commis une faute.
Mais en tant qu'utilisateur lambda, quand tu utilises ton réseau social.
Mais personne n'a besoin de savoir si c'est toi ou
et
pas.
Tu
si
communiques
c'est pas
forcément sur ton adresse IP par défaut, la plateforme sur laquelle tu es en train de communiquer.
Sur ton téléphone ou sur ton ordi.
Donc la question ne se pose même pas.
Mais non, alors la question, c'est un vieux serpent de mer parce qu'elle remonte d'abord à la question.
Oui, mais on les aura pas. Ça n'existera pas.
Donc ce que tu brainstormais à voix haute, c'est l'idée de se dire qu'on pourrait avoir finalement des systèmes de vérification d'identité automatisée. Donc c'est des IA vérificatrices d'identité.
Ça s'appelle la Chine. À partir du moment où on les sollicite, qu'elles ne soient pas systématiquement.
Ça s'appelle pas le social crédit système non plus. C'est pour ça justement que le gouvernement aujourd'hui essaie de dire à Paul Midi, on t'a déjà dit non une première fois, on va te redire non une deuxième fois, parce que notamment ces dispositions-là, je vous signale qu'elles sont quand même un petit peu dans quelque chose qu'appelle le DSA et qui nous dit que ce qui est illégal dans la vraie vie est aussi illégal en ligne.
Voilà, exactement.
Tout un volet de régulation et de législation qu'il suffit juste d'appliquer.
Qui a dit que sur les réseaux sociaux, il fallait absolument être anonyme et faire absolument n'importe quoi? Elle est où cette loi? Quand le sujet de l'anonymat revient, tu as toujours les vieux de la vieille, tu sais, ceux qui ont connu la netiquette et compagnie.
Qui fait un boulot formidable par ailleurs sur les libertés en ligne.
Ouais, mais je veux dire, c'est une position un peu idéologique sur Internet. Ça doit être la liberté absolue.
Non.
Et les réseaux sociaux, ça doit être le bordel généralisé.
Je dis, il vaut mieux réagir, qu'il vaut mieux que les autorités réagissent quand un problème est identifié, quand un crime est commis.
Ça, c'est déjà le cas. Mais okay. pas assez.
Plutôt
et
que
pas
d'avoir
facilement,
des précogs comme dans Minority Report où on va s'amuser à savoir avant que le crime soit commis qui est susceptible de le commettre.
Sans que ce soit bienvenu à Gattaca.
C'est une caricature.
Mais sans que ce soit bienvenu à Gattaca ou Minority Report, ça me rappelle juste les débats, parce que je suis une très vieille personne, qu'on a eu il y a quelques années sur la loi de programmation militaire où on s'écharpait exactement sur les mêmes points. Sur la question de l'identification des utilisateurs et des utilisatrices et sur le fait que la loi de programmation militaire voulait renforcer justement la vérification des identités des internautes. Non, ça ne vous rappelle pas des débats qu'on aurait pu avoir ici par rapport à moi. Ça me rappelle sur d'autres plateaux, mais bon, voilà. On est en train de se reposer les mêmes questions une dizaine d'années après. Hein.
Parce que c'est super difficile, c'est où est-ce qu'on met le curseur.
C'est de la démagogie. De dire, il n'y a qu'un fichier tous les internautes comme ça, tout de suite, on va mettre un terme au harcèlement. C'est
Didier, n'importe quoi. Tu te ferais harceler par une bande de psychopathes, tu ne trouverais pas que c'est démagogique.
Mais ce n'est pas la question. La question, je porte plainte et je demande aux autorités judiciaires de retrouver ces mecs-là, comme l'a fait Mila, comme l'a fait Magali Berda, comme l'a fait
un pauvre mec tout seul dans un village et qui va aller se battre.
Mais ça changera quoi pour lui? C'est exactement la même chose.
Non mais regarde, est-ce qu'on peut pas imaginer un truc qui soit un peu entre les deux? Par exemple, t'es sur Twitter, tu te fais harceler, d'accord? Tu signales ton tweet et que à ce moment-là, Twitter envoie ce tweet aux autorités qui pourraient ça. Attends,
c'est une boîte privée.
Non, attends, laisse-moi terminer. Mais tu sais qu'on peut très bien avoir des injonctions et que Twitter soit obligé par une loi, bien sûr. Mais à ce moment-là. Que l'auteur de ce tweet, qui est malveillant, qui aurait été vérifié et on va dire vérifié comme être malveillant, eh bien à ce moment-là, il reçoit un mail officiel parce que on a retrouvé son adresse IP. Attention, Monsieur Didier Sens, sous votre pseudo Josette92, vous avez harcelé Jérôme Colombin et vous l'avez traité de
ça.
Décidément, Josette.
Non, mais attention. Premièrement, première fois ça va. Deuxièmement, lettre recommandée. Troisièmement, vous aurez une amende. Tu vois, un truc tout bête comme ça, qui pourrait calmer peut-être les ardeurs des gens qui se mettent, qui se cachent derrière des réseaux sociaux pour faire n'importe quoi.
La question, c'est est-ce que c'est pénal, criminel, est-ce que... Voilà.
Tout dépend de
la qualification. Si ça rentre dans un cadre juridique et identifié comme étant un crime, un délit ou je ne sais quoi, les autorités judiciaires arrivent et disent à M. Twitter... Qui est ce bonhomme-là?
Et ça, ça se fait tous les jours.
Ça
se fait par paquet de sang tous les jours, ce truc-là. Hein.
Mais donc c'est là que je dis pourquoi il y a besoin de lever l'anonymat, puisqu'on sait que c'est lui qui a envoyé le tweet. Après, on va voir le monsieur avec son adresse IP. On dit à monsieur Orange ou à monsieur Bouygues. Qui est le bonhomme qui a son adresse?
Mais ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas.
Il y a un truc qui marche pas, c'est le manque de moyens et le manque de détermination.
Vous êtes pas d'accord.
Au-delà des moyens, au-delà de la législation,
on va pas y arriver.
Il y a aussi une question toute bête, c'est l'éducation. Peut-être que si on apprenait un petit peu mieux aux utilisateurs que nous sommes, qu'on est aussi citoyens et citoyennes du numérique.
Oui, tu arriveras à faire baisser de 10% le niveau de haine.
Mais il y a un moment où c'est aussi extrêmement important de comprendre.
Mais tu sais, il disait une chose, et il a été beaucoup raillé d'ailleurs, Paul Midi. Encore une fois, je ne veux pas défendre son truc, mais il parlait de sentiment d'anonymat. Absolument. Et tout le monde a rigolé sur le hack. Qu'est-ce que c'est que ça? Sentiment d'insécurité, sentiment d'anonymat. C'est pas idiot. Sentiment d'anonymat, sentiment d'impunité. Et il existe ce sentiment d'anonymat et d'impunité. Tous les cyberharceleurs dont tu parles, pour Mila et pour toutes les autres affaires. Ah, mais moi, je me suis pas rendu compte, j'étais chez moi et tout. C'est ça la difficulté.
Mais c'est justement tu reçois un mail officiel dans ta boîte mail.
Mais c'est surtout
là. Vous êtes allé un petit peu trop loin sur ce tweet, faites attention.
Ça devrait être le boulot des modérateurs de X et
de je faisais le parallèle avec Adopi parce que c'était un peu ça finalement Adopi.
On
recevait un mail et puis après tu recevais un recommandé.
Je sais pas si ça marchait d'un autre côté.
Je sais pas, mais peut-être que ça marcherait pour les réseaux sociaux.
Mais c'est surtout que là, en fait, pour aller sur les réseaux, tu devrais décliner ton identité en gros. Alors c'est vrai que ça fait un peu policier, ça je suis d'accord.
Les amis,
c'est ça l'idée.
Bon, voilà, on va pas y arriver, mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'on a chacun des avis un peu tranchés sur ce sujet. Est-ce que vous serez aussi tranché avec Truth Social de Donald Trump, lancé, rappelez-vous, ce réseau social en 2021, lorsqu'il s'était fait bannir de Facebook, de Twitter, etc. Il avait un petit peu vexé, il avait créé son réseau social. Et aujourd'hui, ce réseau social fait une entrée en fanfare à la bourse de New York, Marjorie.
fait une entrée en faveur à la bourse de New York parce que entre le lancement de Truth Social et aujourd'hui, il y a notamment eu un groupe média qui s'est constitué autour des activités médias et social media de Donald Trump, qui aujourd'hui répond au joli nom de Trump Media and Technology Group Corporation. Et l'indice sous lequel Truth Social est coté aujourd'hui, c'est DJT, Donald J. Trump, tout simplement, et qui en effet a énormément plus sur son premier jour de cotation aux investisseurs et aux investisseuses. Ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait qu'énormément d'investisseurs y sont allés avec des gros financeurs du Parti républicain et surtout des pro-MAGA Make America Great Again, c'est surtout le fait de voir à quel point finalement on a affaire à des défenseurs de Donald Trump qui veulent voter avec leur portefeuille.
C'est ça. Ils ont voté à la bourse.
Absolument.
C'est ça.
Et on va voir dans le temps.
D'autant qu'il était dans une situation financière compliquée.
Exactement, parce que lundi, le tribunal de New York, en l'occurrence, lui réclamait un petit peu plus de 450 millions d'euros.
Après, ça a été baissé à
175 pour le coup. Donc, il a pas ce demi-milliard presque de milliards de dollars, je vais y arriver, à régler de façon sonnante et trébuchante. Mais la valorisation de Truth Social aujourd'hui est à plus de 3 milliards, si je dis pas. 13 milliards désormais. Ah oui, avec la cotation, tu as raison.
Qui est complètement délirant.
Ça marche ou social? Enfin, moi, je sais pas.
Non, parce que c'est un
peu. Mais non, ils sont déficitaires.
Ils sont déficitaires.
D'abord, ils gagnent pas d'argent.
Ils ont 5 millions d'utilisateurs à peine.
Ils perdent 50 millions de dollars chaque année.
Donc, ils sont pas du tout rentables. Pour donner un ordre d'idée, dans le même temps.
D'ailleurs, tout ça, c'est le soutien de Donald Trump.
On a un autre réseau social qui a fait son IPO en même temps, c'est Reddit. Et Reddit, pour le coup, ils sont largement bénéficiaires. Ils gagnent 800 millions de dollars par an, si je dis pas de bêtises. Leur cotation est extrêmement aussi bien valorisée par les investisseurs et les investisseuses. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a juste un vote par portefeuille interposé qui a été fait par les pro-MAGA sur ce pari-là du DJT côté.
C'est incroyable. Mais c'est vrai, quand on prend un peu de recul, qu'on regarde ça, en plus, vu d'Europe et de France.
5 millions d'utilisateurs pour Truth Social.
Oui, c'est
une estimation. Ouais, c'est ça. Parce que ridiculement, le réseau social ne
c'est ridicule. Non,
c'est même pas la base du Parti républicain. Donc,
Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va permettre à Trump de récupérer un petit peu de sous, de pouvoir payer ses amendes.
Il a 6 mois.
De 40.
Bon.
Comme quoi, cette histoire qui a commencé comme un gag, quand il a créé Social, tout le monde se foutait de sa gueule en disant ah les niens.
Il a transformé ça en or, en tout cas pour l'instant.
Et c'est devenu
le début, on sait pas.
C'est devenu le moyen pour lui de rebondir. Quoi.
Alors, là, c'est la priorité de trouver du cash. Hein.
Oui, pour le coup,
il fait d'autres trucs. Il vend des bibles, je sais pas.
Alors oui, il y a cette magnifique collaboration avec un éditeur de bibles. Il y a une collaboration avec dont il a fait la promotion avec un éditeur de bibles qui, dans la Bible, mais aussi la Constitution américaine. Donc c'est en deux en un.
Ah ouais.
Et Donald Trump faisait une vidéo en expliquant que la Bible était son livre préféré, qu'il en avait plusieurs à chez lui, d'ailleurs. Mm-hmm. Tellement il aime la Bible, il en a plusieurs chez lui.
Oui.
C'était absolument magnifique. T'as aussi les fameuses baskets, les Trump sneakers qui sont dorées avec des petites ailes sur le côté de toute beauté. Et tu as aussi un parfum Donald Trump, si tu as envie, évidemment, d'avoir la fragrance de Donald Trump. Tu as aussi cette magnifique bouteille qui est un petit buste de Donald Trump.
Après, on en parle parce que
c'est la fragrance de Donald Trump après les meetings ou avant les meetings?
Envie de le savoir. Je peux aller très loin pour la politique américaine, mais là, pas à ce point-là.
On en parle parce que c'est Trump, mais aux États-Unis, je veux dire, le moindre petit business, la moindre entreprise, le moindre YouTuber, le moindre podcaster et tout, il a ses objets dérivés.
Oui, il fait du merchandising.
Dérivés, son merchandising.
Et il ne faut pas oublier qu'on est sur, alors, non seulement une campagne où les deux nominés présumés, en l'occurrence, ont eux-mêmes établi l'âge record de leur nomination, donc deux personnes de 80 ans, quasiment, et ont aussi eux-mêmes établi le record de dépenses sur cette campagne. Donc, en effet, ça demande à cramer beaucoup de cash.
On verra bien.
Quand il lève les mains comme ça, c'est qu'il faut s'arrêter.
Non, parce que on a énormément débordé sur l'anonymat des
le
réseaux
timing.
Sociaux. Et je pense pas qu'on aura le temps de
on n'a toujours pas réglé la question.
D'aller sur Big Flo et Oli, là, je pense que là.
Oh, c'est dommage.
Ils vont passer à la trappe. Ben ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas trop quoi vous dire, parce que Didier avait sélectionné aussi ce sujet concernant les données personnelles, vous savez, qui ont été raflées avec France Travail. C'est ça, hein? 43 millions de données. Ouais. Et là, il y en a quand même un paquet, hein, les adresses.
Mais, oui, mais ce qui est...
les adresses postales, elles sont en vente.
Alors, ils ont annoncé très rapidement qu'ils avaient arrêté les malfaiteurs. Hein. Mm. Donc, encore une fois, grâce à l'élevé de l'anonymat. mais les types n'en sont pas restés là. Apparemment, le fichier en question est resté dans un coin, a été transmis à un complice qui, lui, maintenant, propose de les vendre en ligne. Et c'est un vrai problème parce que c'est des informations très complètes.
Alors, elles étaient sur la clé USB, vous savez, du gars qui a perdu son ordi. Où il y avait tous les plans des JO, les Jeux Olympiques.
C'était au même endroit.
Il y avait aussi les 43 millions de données.
Mais si j'ai bien compris, sur ces 43 millions de données, tu as les données des personnes actuellement inscrites en recherche d'emploi à France Travail.
Et anciens.
Depuis des dizaines d'années. Depuis 20 ans. Donc ça veut dire que potentiellement, si...
Tout le monde est en
gros. Si nous avons réactivé notre statut à Pôle emploi avant les 20 dernières années, il y a peut-être des infos, alors qu'ils sont peut-être obsolètes aussi, mais qui doivent...
Alors on va conclure rapidement, comme ça sera fait. Rapidement, pour dire que le danger, c'est pas tellement qu'il y a pas de mot de passe, il n'y a pas de numéro de carte de bancaire, etc.
Mais il y a des numéros de téléphone.
Il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses IP, des adresses physiques. Donc c'est ça le problème, c'est que ça peut créer un corpus qui va permettre aux arnaqueurs d'asseoir leur escroquerie sur une base légitime. C'est-à-dire, ils vont téléphoner chez vous en disant ah, gna gna, vous êtes bien monsieur machin, numéro de sécu de Schmoll qui habite à tel endroit, etc. Donc ça, c'est un premier risque. Et puis le deuxième risque, c'est un risque d'usurpation d'identité parce qu'ils vont profiter de ces données-là.
Est-ce que je peux être Josette? Si Josette 27, par exemple, utilise l'adresse IP qu'elle a récupérée sur les forums dans le dark web pour justement récupérer ces données des 43 millions de Français qui se sont fait usurper sur le vol de données à France Travail, du coup, eh ben, le vide d'anonymat, c'est important. On revient sur notre exemple de départ.
C'est QFD. Ouais.
Didier, quand il a son regard comme ça, il n'a pas compris.
Non, je ne suis pas compris.
Et puis on est passé de Josette 92 à Josette 27. Est-ce que c'est la même? Je ne sais pas.
C'est beaucoup plus vieille.
Josette 27 a l'air un peu plus jeune. Quoi.
C'est sa sœur. Non, mais c'est scandaleux, cette histoire de monnaie de France Travail.
Mais ça prouve encore une fois qu'on n'est pas à la hauteur au niveau de nos infrastructures.
Et c'est toujours les mêmes histoires. C'est par le petit partenaire. C'est pas l'organisme lui-même qui est attaqué en direct. C'est toujours par la bande, en fait, que ça arrive.
Tu veux cambrioler une maison, tu passes pas par la porte d'entrée.
Exactement, hein, tu passes par le garage.
Et on va dire la même chose sur les ENT, hein, le réseau des lycées, qui est aussi qui est devenu une passoire, malheureusement.
Oui, mais apparemment, c'est pas la même chose. C'est pas une brèche, c'est pas un piratage du réseau. Je sais pas si on peut appeler ça du piratage. Récupération de code et de mots de passe suite à du phishing. Il y a des gamins qui ont dû se faire avoir par des trucs, par des messages qui ressemblait à l'ENT apparemment, et donc les pauvres, ils ont donné leurs identifiants.
La double authentification dans ce cas-là,
absolument. Voilà. Tout à fait.
C'est tout. On s'arrête là.
Non, on va pas s'arrêter là, monsieur Didier, parce que tu vas nous parler aussi de cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site qui a le mérite d'exister, qui permet de vous informer sur toutes les attaques que l'on peut subir quand on est dans le cyberespace, comme on disait il y a une trentaine d'années à peu près.
Les autoroutes de l'information.
Les autoroutes de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cybermalveillance.gouv.fr, depuis quelque temps, vous avez Sens Cyber pour apprendre et tester vos connaissances en matière de cybersécurité. Et tu voulais nous en parler.
Je trouvais l'initiative très bonne. C'est intéressant que tout le monde, grâce à un organisme officiel, gouvernemental, puisse s'informer sur les risques, les menaces qui passent sur Internet, que ce soit Josette 92 ou Josette 28.
Je change de numéro à chaque fois.
Je voulais tester le premier module.
Laisse-moi finir.
Non, mais attends, le temps estimé, c'est 43 minutes, quoi. Donc,
43 minutes. Chose, hein.
Alors, tester tes connaissances.
L'initiative est très bien. La CNIL avait déjà fait, je sais pas si vous avez vu, la CNIL avait déjà fait.
Oui, il y a longtemps, vous laissez des traces, etc.
Même pour savoir ce que c'est qu'un cookie, les machins, les trucs. Bon. Donc c'était très bien que cybermalveillance arrive. Donc j'ai voulu regarder et effectivement, c'est très prometteur. Il y a beaucoup de choses dedans. Ça commence par acceptez-vous les cookies. Alors déjà, pour un site officiel qui est censé être un service public, je n'apprécie pas des masses. Et deuxièmement, vous voulez savoir où vous en êtes, où on en est de la cybermalveillance, eh bien, inscrivez-vous et remplissez le formulaire avec votre nom, votre adresse, votre mot de passe, etc., etc. Donc, j'ai arrêté tout de suite parce que profiter d'un service public en donnant mes données, c'est rédhibitoire.
Ah, c'est pour critiquer, en fait, que tu voulais en parler.
Parce que l'idée...
Non, mais parce qu'il est très bien, ce site.
Tu t'es inscrit, t'as donné tes
données. Je ne me suis pas inscrit pour ça, mais j'y suis déjà allé. Et en plus, je trouve qu'il est pas mal parce que tu y vas souvent, rarement de manière préventive, mais c'est plutôt quand tu as un problème. Et quand tu as un problème, il y a une arborescence qui est assez simple. Vous êtes un particulier, un professionnel, qu'est-ce qui vous est arrivé, tac, tac, tac. Et tu te retrouves orienté vers telle ou telle solution. Évidemment, il ne faut pas y aller en pensant récupérer son argent si on a été scammé par téléphone la veille, quoi. Donc, mais quand même,
très bonne
même
initiative à l'origine. Et c'est dommage qu'on en arrive encore à ces solutions où... on est considéré comme de la marchandise alors que c'est censé être un service public.
Mais enfin, ils vont pas t'envoyer de la pub après.
Si non, mais ils vont s'en servir autrement des données, tu sais très bien.
Non, je sais pas.
Oui, ils vont les commercialiser, ils vont les valoriser.
Cybermalveillance,
je ne sais pas.
On les vendra à Meta.
Pourquoi il y a des cookies? Pourquoi est-ce qu'ils te demandent de t'inscrire?
Là, avec les réseaux sociaux et cybermalveillance,
je suis. Ça m'évite justement d'avoir enlevé mon anonymat.
Mais tu es Josette 89, 92 et 27 en même temps, je le sais.
Bon, et Josette 27, elle aime bien Big Flo et Oli.
Non, mais
plus intéressant, attends, juste on termine.
Merde, on va pas y arriver, on va pas y arriver.
On va y arriver avec Big Flo et Oli, mais plus intéressant, une initiative de Bitdefender.
Oui, ça c'est très bien. Scaméo.
Voilà, Scaméo. Avec leur chatbot, je fais le test et ça m'a amusé. Parce qu'effectivement, c'est un espèce de chat GPT à qui on pose des questions, où on met des images, où on lui donne des liens.
Tu fais un screenshot, tu lui envoies le screen de ton SMS que tu as reçu, il te dit ça sent pas bon.
Ah bon. Et alors je lui dis, mon fils m'a envoyé un message sur WhatsApp me disant qu'il avait perdu son téléphone et qu'il était très embêté.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Et voilà. Et il m'a répondu,
juste ça.
Il y a un très bon argumentaire où il te dit en gros qu'il faut se méfier, que ça ressemble énormément à une série de phishing qui ont lieu en ce moment sur
Moi j'ai bien aimé le tweet de Jérôme là-dessus parce que t'as pris une capture d'écran parce qu'on a tous reçu ce message.
Ah oui. Je me suis lâché. Ou j'ai un message, papa, j'ai cassé mon téléphone. Appelle-moi vite.
Aide-moi vite, s'il te plaît.
Je dis, c'est dommage pour toi, t'as plus qu'à changer de papa maintenant. Mauvais PC, ça sert à rien, c'est débile, ça valide le fait que mon numéro existe, mais ça fait plaisir. Ça fait
Alors, pour terminer en clin d'œil, il nous reste quelques secondes. C'était pour vous parler de cette intelligence artificielle générative qui arrive partout, et notamment dans les clips vidéo. C'est le cas de Big Flo et Oli, qui trustent les charts français depuis pas mal de temps. Leur dernier single donc a forcément un clip, et le clip dont vous voyez les images a été réalisé par l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont prompté les images de ce clip et le résultat est là. Donc, alors il y a des gens qui sont pour, évidemment, c'est comme tout, des gens qui sont pour et d'autres qui disent ah oui, mais vous comprenez, vous rendez compte tous ces infographistes qui auraient pu faire ce clip qui disparaissent maintenant, qui n'ont pas été embauchés.
Alors en l'occurrence, ils expliquent que parce que la chanson et le morceau qu'ils voulaient composer étaient sur les technologies. Ils ont voulu justement tester une techno pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet pratique.
Attends,
pour ils vont
passer. T'excuser parce que tu fais.
Non mais voilà, il précise aussi dans la vidéo et en pied de vidéo que le sous-titrage a été fait par un humain et que l'assemblage après de l'ensemble des images générées par IA a aussi été supervisé par un réalisateur humain.
Et le résultat est plutôt joli,
Et c'est assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé le passage. C'est un morceau qui dure plus de 4 minutes quand même. Mais j'ai particulièrement aimé le passage où tout va très vite, en effet. C'est vraiment le titre de la chanson. Et où Elon Musk se retrouve sur des billets de banque. C'est assez intéressant.
C'est évocateur.
C'est vraiment bien.
Non, mais c'est super intéressant comme sujet parce que c'est celui de la création par intelligence artificielle. Mmh. Et là, ça y est, je veux dire, il ne s'agit pas de dire oh là là, je vais perdre mon travail ou ça va tout changer, c'est affreux ce monde.
Là, tu touches du doigt le truc quand même.
Ça aurait été intéressant qu'ils fassent faire la musique par une IA aussi.
Ouais, ils auraient pu.
Peut-être dans un an ou deux.
On fait des trucs magnifiques, mais on est quand même encore à l'étape où on a besoin des humains.
C'est les prémices là, oui, mais ça, on le sait.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marjorie.
De rien.
C'est un plaisir.
Bonjour Denis, merci Didier. Toujours les amis tranchés de Didier Sans, un bonheur. Et puis Jérôme Colombin, évidemment, que vous retrouvez avec Monde Numérique, ton podcast. Tu vas nous parler de quoi cette semaine ?
L'intelligence artificielle, cher ami, parce qu'on est perdu, on ne sait plus qui fait quoi. Et ben, on va.
En plus, il paraît que je vais intervenir dans ton podcast là.
Dans le dimanche, mais oui, bien sûr.
Voilà, dimanche, je serai.
Dimanche, tu seras dans Monde Numérique. Ouais.
Tu vas voir, je vais bousiller ton podcast, je vais raconter n'importe quoi.
Je te fais confiance.
Merci beaucoup à tous les trois. Et vous restez avec nous, Tech & Co. La quotidienne revient dans un instant. Et on a encore une petite demi-heure à passer ensemble. Tiens, est-ce que la 5G décolle dans les entreprises ? C'est la question qu'on posera au DG de Bouygues Télécom Entreprise, qui justement propose des offres assez accessibles, même pour les petites PME. Et puis, notre rendez-vous Tech & Ciné avec Xavier Perret. l'IA générative à Hollywood et vous verrez qu'on peut remonter jusqu'au film Wargame. Vous vous souvenez de Wargame?
Eh oui, ah ouais.
Années 80.
Génial.
Eh bien, Xavier Perret a détecté déjà des prémices d'IA dans ce film-là. Il viendra nous parler de tout ça.
Il joue au tic-tac-toe.
Dans 15 minutes. Merci de rester avec nous. Tech & Co revient avec Léa Benaïm dans un instant pour le Tech Flash. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, 21h02, le retour de Tech & Co, la quotidienne. Et il est temps maintenant de s'intéresser à l'actu de ce jour. En quelques minutes, ce qu'il fallait retenir de l'actu tech, c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Et bonsoir François, bonsoir à tous. Facebook a joué les espions. L'appli de Meta aurait transformé les smartphones de ses utilisateurs en mouchards pour espionner ses concurrents. Grâce à un VPN, Facebook a pu avoir un aperçu précis de comment les internautes utilisent les différentes applications, histoire de mieux répliquer. Et plus précisément, Snapchat, à l'époque concurrent principal de Facebook. Cette histoire a duré entre 2016 et 2019, période où Facebook commençait à perdre des parts de marché. La cyberattaque de France Travail continue de faire parler d'elle. Selon 2D Pirates, les données volées seraient actuellement en vente sur un forum. On parle ici des données de 43 millions de Français, avec toute la panoplie des informations des victimes, nom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, email, etc. Une mine d'or pour tous les cybercriminels spécialisés dans l'usurpation d'identité. Les autorités françaises ont refusé de payer la rançon, c'est pourquoi ils ont décidé de tout mettre en vente. Une apocalypse de l'emploi est à venir. Selon un rapport, 8 millions de postes pourraient être supprimés au Royaume-Uni à cause de l'intelligence artificielle. L'IA a déjà un impact sur 11% des tâches effectuées en entreprise, un chiffre qui pourrait atteindre près de 60% dans quelques mois, laissant les travailleurs peu qualifiés les plus exposés. Les auteurs du rapport décrivent cela comme le pire scénario. Ils demandent au gouvernement britannique d'encadrer l'usage de ces technologies en entreprise. Et puis avis aux nostalgiques, Atari est de retour 45 ans plus tard avec une nouvelle console plus moderne et en format mini. Elle sera compatible avec les Smart TV et aussi elle aura aussi une prise HDMI. 25 des jeux les plus emblématiques seront préinstallés dans la machine. Baptisée The 400 Mini, elle sort demain au prix de 119€. Et pour finir,
Je la veux.
On vous l'achètera. Et pour finir, la fin de la semaine arrive et votre rendez-vous série aussi, épisode suivant disponible en podcast sur Tech & Co et BFM Business avec Clément Le Saffre et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
On est pile entre deux festivals de séries, Série Mania qui vient de se terminer à Lille, c'était la 15e édition, et puis Cannes Série qui arrive, qui démarre la semaine prochaine, ce sera cette fois la 7e édition, festival un petit peu plus jeune. Deux festivals malgré tout donc très importants, avec des avant-premières, des séries très attendues, des masterclass d'acteurs et de réalisateurs, des remises de prix, des conférences aussi professionnelles, des keynotes de plateformes, de chaînes qui viennent présenter leur stratégie, des rencontres, voilà. Bref, deux moments forts de l'année série, coup sur coup, et les deux ont lieu en France, et ça c'est pas négligeable quand même. Qu'est-ce que ça nous dit, tous les deux, de la place de la France dans l'audiovisuel et le streaming?
Je pense que c'est assez symptomatique du fait que justement, la France prend ce qui est sa juste place, selon moi, dans le monde des séries. C'est quand même des festivals relativement jeunes. Si on compare par exemple au Festival de Cannes, c'est quand même vraiment beaucoup plus jeune. Donc, on a eu un peu de retard à l'allumage et là, on se dit qu'enfin, la France se positionne.
Voilà, retrouvez cette émission ainsi que toutes celles que nous vous proposons sur la plateforme Tech & Co, sur le site de Tech & Co, sur l'appli BFM Business et RMC BFM Play. 21h06, on va parler télécom et 5G maintenant.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille François Treuil. Bonsoir François.
Bonsoir.
Vous êtes directeur marché entreprise de Bouygues Télécom. Voilà, opérateur mobile fixe que tous les Français connaissent bien. Et vous êtes avec nous ce soir pour parler de 5G, parce que vous proposez en fait une première offre de réseau 5G privé hybride. Alors c'est très B2B, c'est très technique, mais c'est intéressant parce que la 5G, ça fait quelques années qu'elle a été lancée en grande pompe par vous, mais aussi par tous les opérateurs. Ça fait pchit, on est d'accord, hein, le ballon s'est dégonflé. La 5G pour le grand public, excusez-moi du terme, mais tout le monde s'en fout.
Ah, ça a permis des choses quand même.
Pour le grand public ?
Ah oui, ça a permis déjà d'acheminer le trafic croissant de la...
Oui, mais comme la 4G le faisait, en fait.
Comme la 4G le faisait, mais comme la 4G n'allait plus le faire compte tenu de la congestion du réseau.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que vous, et pas que vous, mais tous les opérateurs, vantaient la vie avant la 5G et après. Et ouais. On se rend compte que finalement, ça n'a pas changé grand-chose dans le quotidien des Français, non ?
Absolument.
Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que cette 5G, elle a beaucoup plus de on va dire de vertu pour les entreprises, c'est ça ?
Absolument, tout à fait.
Pourquoi ?
Exactement ça.
Expliquez-nous.
D'abord parce que pour les entreprises, c'est beaucoup un sujet de connectivité sur les lieux de travail, dans les usines, mais aussi dans le secteur tertiaire. Et la 5G permet d'amener beaucoup plus de latence, beaucoup plus de temps de réaction, temps de réponse des applications informatiques, amener de la sécurité.
Moins de latence, parce que vous avez dit plus.
Ouais, moins de latence, pardon, d'accord. Plus de temps de débit, et puis plus de sécurité, plus de continuité d'activité.
Très bien. Alors, cette 5G, elle existe de manière industrielle depuis pas mal de temps. Il y a de grands groupes, de grandes usines qui ont besoin pour avoir des réseaux sécurisés où la 5G traditionnelle ne passe pas, où le Wi-Fi n'est pas le bon système. On crée des réseaux 5G, d'accord ?
Ouais.
Vous en avez sans doute.
Oui, beaucoup.
De grandes industries.
Oui.
Là, ce que vous proposez, c'est un peu différent. C'est-à-dire que ça, vous découpez votre 5G pour l'offrir, on va dire, à des entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes ambitions que des grands groupes. C'est ça ?
Oui, alors en fait, on fait déjà beaucoup de couvertures dédiées, que ce soit pour des sièges, des sites tertiaires ou des industries. Donc c'est amener de la connectivité radio, 4G et de plus en plus 5G, dans les industries. Donc ça existe depuis déjà
privé.
Quelques années. Non, pas privé. Ça, c'est de la connectivité simple comme celle que vous avez dans
Par exemple, dans cet immeuble, je ne reçois pas bien Bouygues Télécom ou SFR ou Orange. Enfin, SFR, ça serait un problème quand même. Mais bon, voilà.
Eh bien,
vous mettez vos petits émetteurs et tout le monde pourra avoir un bon réseau.
Exactement.
C'est ça.
Et ça existe déjà.
Et ça, il y a des entreprises qui vous appellent pour vous dire couvrez mon immeuble.
On fait plusieurs centaines de projets par an et on amène de la couverture, d'ailleurs, multi-opérateurs. Pas simplement la couverture Bouygues.
Voilà. D'accord.
Alors, la 5G privée, elle se décompose maintenant sous plusieurs formes, chacune étant adaptée finalement au contexte client. Donc, vous avez, une centrale nucléaire, ça va être de la 5G privée, au sens les objets ne vont communiquer qu'en interne sur leur réseau.
Et moi, je passe à côté avec mon téléphone.
Vous ne voyez pas le réseau.
Je vois pas le réseau,
absolument.
Je ne peux pas me connecter.
Vous ne pouvez pas vous connecter, il est dédié à certains équipements de l'entreprise. Et puis, vous avez ensuite des entreprises qui ont besoin d'une garantie de bande passante. Alors, je vais prendre par exemple l'exemple d'un stade. Vous voyez, un stade, un match de foot, un soir. Vous allez avoir des spectateurs. Le lieu est partagé entre des spectateurs, mais aussi des stadiers, des forces de sécurité. Eux vont vouloir avoir une bande passante garantie pour eux, dont ils sont sûrs de pouvoir être utilisés, quelle que soit finalement l'utilisation qui est faite par le grand public à côté.
Par exemple, la retransmission d'un match de foot, si la caméra HF se connecte sur la 5G alors que tout le monde est connecté dessus, on risque d'avoir des saccades en termes d'image. Là, cette caméra va capter une 5G qui va lui être réservée, quoi. Une 5G un peu VIP, quoi.
Exactement. On commence déjà à faire des projets comme ça. On a un très gros projet qui est techniquement un peu différent, mais qui vise à faire exactement la même chose avec le ministère de l'Intérieur pour toutes les forces de secours et de sécurité. Et puis après, l'offre que nous avons lancée, c'est ce qu'on appelle une 5G hybride. C'est-à-dire que ça permet finalement d'avoir les avantages pour les entreprises de la 5G privée, si vous voulez, la 5G qui est vraiment dédiée à une entreprise, à des utilisateurs nommément inscrits sur le réseau.
Mais par exemple, vous, moi, ça va être des devices qui seront connectés.
Mais les données, à la fois, on est dans un modèle hybride, parce que les données ne sortent pas de l'entreprise, elles restent dans les entreprises, elles ne vont pas circuler sur le réseau des opérateurs à l'extérieur de l'entreprise.
Donc elles restent dans l'intranet, en quelque sorte.
Elles restent, sur le réseau local.
Oui, ok.
Le réseau local de l'entreprise. Mais par contre, l'entreprise n'a pas à s'occuper de toutes les fonctionnalités de gestion d'un opérateur réseau. La signalisation, la gestion des cartes SIM, l'enregistrement des cartes sur le réseau, etc.
C'est mieux que le Wi-Fi ?
Ah de manière générale, la 5G, c'est mieux que le Wi-Fi. Ça, c'est sûr.
Pour quelle raison ?
Ça permet le handover, typiquement, la mobilité des objets. Donc, quand vous avez aujourd'hui des objets qui se promènent dans l'usine, le passage d'un relais à un autre va être bien plus facilité qu'à travers le Wi-Fi.
Ce découpage de la 5G, c'est ce qu'on appelle le slicing, je crois.
Ouais.
C'est ça, ça commence vraiment. Ça y est, c'est prêt, techniquement. Parce que c'est vrai qu'on sait que la 5G a été lancée en deux temps. Hein. Il y avait déjà la 5G qui a permis d'avoir des débits plus importants. Mais après, il y avait tous les cœurs de réseau des opérateurs qui étaient encore en 4G.
Oui.
Et c'est grâce justement à cette arrivée du cœur des réseaux en 5G que vous pouvez maintenant proposer tous ces services.
Absolument. C'est exactement comment ça se passe. Vous l'avez très bien résumé. Bouygues Telecom a installé son cœur de réseau 5G standalone, SA dans notre jargon, qui permet de véhiculer du trafic réseau sur vraiment le réseau 5G. Et donc d'avoir le slicing, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure comme étant une réservation de bandes passantes pour des usages précis.
Ça va arriver même dans des petites PME, à votre avis, cette 5G privée
Oui, parce qu'on est à un point de bascule en 2024. L'offre des opérateurs, des intégrateurs, s'est considérablement élargie. Les techniques sont maintenant au point. Le coût des solutions a baissé. Bouygues a amené des évolutions que les autres aussi vont suivre pour abaisser le prix d'entrée de ces solutions pour, on va dire, les ETI de l'industrie française.
D'accord.
Donc le ticket d'entrée va être quand même considérablement réduit.
Et le modèle économique, c'est quoi? C'est un abonnement spécifique, en fait? Un peu comme un abonnement mobile traditionnel?
Oui, alors ça va changer les modèles, parce que ça ne sera pas un abonnement à la carte SIM. Quand vous mettez des milliers d'objets qui ont une carte SIM dans une usine, vous n'êtes plus à X euros par objet et par mois. Vous allez, au contraire, commercialiser une capacité globale.
D'accord.
Et ça sera à l'industriel de déterminer le nombre d'objets qu'il veut y associer.
Alors, ce sont des humains qui peuvent se connecter, mais aussi des objets connectés,
c'est ça? Oui, absolument. Très bien. Alors,
ça marche, ça?
Ah, ben, ça marche déjà. On a exposé, par exemple, sur le salon Global Industrie, un objet qui est une visseuse. Et une visseuse, alors industrielle, ça coûte quelques milliers d'euros.
C'est pas celle que j'ai dans mon tiroir, dans
mon établi. Quelques milliers d'euros, elle fait quelque chose d'extraordinaire. À chaque boulon qu'elle visse, elle vous permet de savoir quelle est la vitesse, le couple, la rotation, la pression, l'usure de la mèche associée. Et toutes ces données sont collectées via la 5G pour faire de la maintenance prédictive, pour déterminer si une porte d'avion a été correctement vissée, par exemple. Voyez, ouais. Mais aussi pour savoir quand il faut
remplacer... Prenez un avionneur qui en aurait besoin à ce moment-là.
Voilà, quand il faut remplacer la mèche, ni trop tôt ni trop tard, quand est-ce qu'il faut faire la maintenance des opérations. Typiquement, pour une industrie, c'est comment améliorer le taux de disponibilité des machines dans l'usine.
Et pourquoi la 5G, pas la 4G, là, par exemple?
Parce que là, il y a énormément de quantités de données qui sont véhiculées. Ça, c'est le premier point. Il y a beaucoup d'objets. Donc, la 5G permet de gérer simultanément énormément d'objets dans une usine, de coupler beaucoup plus d'usages. Et puis après, il y a la question de la latence. Je vais prendre un exemple sur la partie, par exemple, vidéosurveillance, là aussi. Un jour viendra, déjà pour les Jeux Olympiques, où les caméras de vidéosurveillance installées par la préfecture de police de Paris dans les rues pour filmer les lieux d'accueil du public vont remonter très vite, en temps réel, des flux d'images qui pèsent lourd en termes de trafic et qui vont être décryptés par de l'intelligence artificielle pour voir s'il n'y a pas des événements anormaux. Mm-hmm. Par définition, ce n'est pas des bandes que vous regardez le soir pour savoir ce qui s'est passé dans la journée. C'est quelque chose que vous avez besoin d'analyser en temps réel, maintenant, tout de suite.
Ça veut
et
dire
là,
que
la 5G est essentielle.
Ça veut dire que même les médias, nous, notre, en fait, un média comme BFM Business pourrait... Alors, nous, on utilise déjà de la 5G pour faire des retransmissions, etc. Oui. Mais ça va accélérer peut-être la qualité d'image, les latences, etc. aussi.
Absolument.
Pour les médias.
Absolument.
Les médias
broadcast. Il y a plein d'usages. Les usages sont innombrables.
D'accord.
Et 2024, c'est vraiment un point de bascule. Là, on voit le marché, l'intérêt vraiment des entreprises.
Tous les réseaux, ça y est, sont upgradés 5G maintenant. Les cœurs de réseau sont 5G.
Oui. Okay. En tout cas, chez Bouygues et chez au moins nos concurrents.
Merci beaucoup François Treuil, directeur marché entreprise de Bouygues Telecom, avec cette première offre que vous présentez de réseau 5G privé hybride. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Il est 21h15, direction tout de suite la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et Pierre Bergessien nous a rejoint. Salut Pierre.
Bonsoir.
Journaliste à Tech & Co. Ça n'a pas bougé depuis hier.
Toujours pas.
Voilà. Et décidément, l'intelligence artificielle se glisse dans tous les aspects de notre quotidien, Pierre. Et c'est autour de YouTube, maintenant, qui teste en ce moment une nouvelle fonctionnalité. Écoutez bien, qui pourrait permettre de passer les moments ennuyeux d'une vidéo, c'est ça ?
Exactement. Je vais vous donner une situation. Je suis sûr que vous l'avez vécu aussi, François. Il y a des jours, on est pressé. On ne sait pas quoi faire, mais on veut regarder la vidéo d'un de nos créateurs de contenu préférés sur YouTube. Oui. Mais alors, catastrophe, elle est trop longue, donc on ne sait plus quoi faire, c'est le chaos. Que se passe-t-il ? Eh bien, YouTube a peut-être une solution pour pallier ce problème. Et cette solution, elle prend la forme d'une intelligence artificielle qui permet de passer les moments, je cite un peu, ennuyeux d'une vidéo, et ça simplement en appuyant deux fois sur l'écran de son smartphone.
Ouais, j'ai un peu peur parce qu'on est sur YouTube aussi, donc je me dis qu'on risque d'être victime de cette intelligence artificielle si on fait des vidéos ennuyeuses.
Mais tout est intéressant. Hein,
c'est ça, oui. Merci Pierre, vous nous sauvez la vie. Comment ça marche tout ça? Parce que comment on arrive à détecter du contenu ennuyeux?
Alors d'abord, il y a un côté un peu manuel qui peut être exploité. Les créateurs de contenu peuvent eux-mêmes en fait, hein, définir les parties qui sont passables, skippables d'une vidéo. Mais sinon, s'ils font pas le travail, hein, c'est l'intelligence artificielle qui rentre en jeu. Et là, l'algorithme va se baser sur les moments en fait les plus regardés par les autres utilisateurs, et estimer que ce sont les plus importants, ceux qu'il ne faut pas passer, quoi.
Après, c'est vrai que tout bouge, hein, dans les réseaux sociaux, dans la manière dont on regarde les vidéos. Il y a cette tendance quand même, hein, qui est de raccourcir les vidéos. Hein, on a l'impression.
Exactement. On peut penser notamment aux polémiques et l'engouement, hein, même qu'il y a autour d'Abrège Frère, cet influenceur qui abrège donc le contenu d'autres créateurs, créatrices surtout, hein, de contenu. J'ai pu m'entretenir avec Eros Brousson, qui est lui-même un créateur de contenu, qui a importé le concept d'Abrège Frère aux États-Unis. Ça fait aussi un carton là-bas. Donc voilà, d'un côté, on a YouTube qui pousse ses créateurs à raccourcir leur contenu, mais de l'autre, on a des réseaux, hein, comme TikTok, qui invite ses créateurs à faire plus long. Hein. Des fois, on peut voir plus d'une minute. On parle même parfois même des vidéos de plus de 10 minutes. Hein. Certaines sources le disent. En tout cas, même si c'est un peu confusant tout ça, cette nouveauté de YouTube, elle n'arrive pas tout de suite en France. Pour l'instant, elle est testée par une poignée d'utilisateurs de YouTube Premium, et ça seulement aux États-Unis.
Donc on peut faire encore quelques vidéos ennuyeuses, c'est ça,
hein? Ouais, faut en profiter.
Bon, on va essayer, parce que vous savez, on a du mal à faire des vidéos ennuyeuses. Le gars qui commence un peu à se la péter. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Bergessia, donc journaliste à la rédaction de Tech & Co. Merci beaucoup. Il est 21h19, j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop. Et tout de suite, pour remonter le niveau, parce qu'il est déjà très haut, Xavier Perret nous rejoint.
Tech & Co, la quotidienne, Tech & Ciné.
Et oui, notre rendez-vous mensuel Tech & Ciné avec Xavier Perret. Salut Xavier.
Bonsoir François.
Attention, la pression, là.
Le niveau est haut.
La tente est haut. Hein, ça va être dur là. Directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Vous savez que Xavier a deux passions dans la vie, le cloud et le ciné. Je le dis à chaque fois.
Voilà.
C'est pas compliqué. Hein. Et alors, chaque mois, tu t'intéresses à un phénomène, on va dire, lié à la tech et au cinéma. C'est toujours très intéressant. Tu vas plonger dans les films et scénarios de science-fiction. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de création et de créativité des IA, en particulier avec l'IA générative comme OpenAI. Et en quoi cette IA est-elle créative ou générative via quelques films de cinéma?
Oui, parce que finalement, depuis l'arrivée de ChatGPT, on parle d'IA générative et pas d'IA créative. On va voir, hein, mais il faut revenir à ce qu'est une IA générative. Voilà, ChatGPT, entre autres. C'est finalement des modèles qui permettent de transformer, on va dire, un objet, donc un texte en particulier, une photo, une vidéo, quelque chose d'autre, un texte, une photo, une vidéo, voire une musique, on va le voir après. Ces modèles vont créer, générer statistiquement, voilà. Ils vont donner l'illusion de la création. Je pense que c'est important. Et on va d'ailleurs se plaindre parfois que ChatGPT hallucine. Voilà, qui va raconter n'importe quoi. En fait, c'est une fonctionnalité. C'est pas une, ce qu'on appelle une feature, hein, voilà, en américain. C'est pas du tout un défaut. C'est pas un bug. C'est le fait même de ces modèles d'IA générative derrière. Alors, l'IA générative, elle permet aussi de créer, du coup, bah, des poèmes, des romans. Les gens ont commencé à faire. Il paraît qu'Amazon serait rempli maintenant de livres et de romans, finalement, créés par l'intelligence artificielle, à tel point qu'Amazon serait obligé de revoir ces conditions d'utilisation derrière. Et on va trouver, voilà, c'est des films qui, finalement, c'est pas nouveau, l'avaient déjà inventé, dont un grand film, un grand livre, en fait, George Orwell. On est en 49, c'est 1984. Ouais. Voilà, Orwell avait imaginé déjà, voilà, beaucoup de technologies dans ce film. On va pas y revenir, sur la reconnaissance faciale, les fusées, les armes atomiques. Et il y a un objet qui est un versificateur, qui est justement capable de créer, bah voilà, des romans, des films, sans l'aide de l'humain. Voilà.
Un ChatGPT de 84, quoi.
Voilà, qu'on n'appelait pas IA, puisque je rappelle, l'IA, le mot a été inventé en 1956, là on est en 1949, voilà. 1984, il y a un film, Michael Radford, qui va aussi raconter, bah, finalement, ce livre derrière. On se souvient aussi, on en avait parlé ici, de Blade Runner. Ouais. Donc là, c'est un film de 1966, enfin, un livre, pardon, oui, de Philip K. Dick.
Le film est des années.
Le film est 82, exactement. Voilà, le livre s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques derrière. Et puis il y a cette fin, on en avait parlé, où Roger Hauer, dans le film, le réplicant, va halluciner, raconter un poème, c'est sa fin de vie derrière. Mm-hmm. Ça s'appelle Le monologue des larmes de la pluie, qui est un des meilleurs films selon les critiques, un des meilleurs moments, l'un des meilleurs monologues derrière.
Impressionnant ce film, hein, d'ailleurs. Je vous invite à revoir ou à voir Blade Runner, qui est en plus un film avec une esthétique
magnifique,
incroyable.
Exactement, magnifique. Voilà.
Alors justement, puisqu'on parle de musique, il faut savoir que Xavier Perret est musicien, mesdames, messieurs. Guitariste.
Tout le monde va le savoir maintenant.
Ben ouais, voilà, c'est vrai. Ça. On peut t'écouter quelque part ou pas d'ailleurs?
Non, pas encore, dans les cercles fermés.
La prochaine fois, il faudra que tu me fasses
écouter. La prochaine fois, j'amène la guitare.
Ça s'appelle les Microsoniques en plus, ouais. Le groupe de Xavier. On apprend par exemple, avec les annonces d'Adobe, que l'IA en fait, s'est mise au service aussi de la musique et qu'on peut maintenant, grâce à l'IA, créer des chansons.
Oui, parce que tout comme ChatGPT, qui c'est un modèle de langage, c'est-à-dire qu'il va comprendre le langage et transformer du texte en texte, et ben on va trouver des modèles qui transforment des textes en musique derrière. Donc on va, il y a en fait beaucoup de modèles qui viennent de sortir. Hein. Il y a AudioCraft de Meta derrière, des startups comme Sandbox, MusicLM de Google, Adobe. Effectivement, qui a lancé son projet Music Gen AI, qui propose avec un prompt de transformer ça en une chanson, d'accélérer le tempo, de transformer le thème. Si vous voulez tester, en fait, il y a une start-up qui est intégrée dans Bing aujourd'hui, qui s'appelle Suno, S-U-N-O, et qui permet exactement ça, de créer avec un simple prompt texte, François et Xavier sont en train d'animer une émission, et de le transformer sous le rythme, voilà, sous le style country, rap, si tu préfères le rap, François derrière.
On s'est beaucoup amusé à la rédac avec ça, c'est impressionnant, vraiment.
Et c'est exactement impressionnant, il faut le tester. Mmh. Il y a même des petits malins qui, du coup, désespérés de ne pas retrouver le groupe Oasis qui s'est séparé, qui a créé AISIS. Ouais. Qui est l'équivalent de ce qu'aurait pu faire Oasis s'ils ne s'étaient pas séparés derrière, pour dire à quel point l'IA peut faire des choses. Il faut rappeler que le mot IA, il a été créé en 1956. En fait, la première pièce musicale créée par l'ordinateur, elle date de cette époque-là. Voilà. Exactement. C'est créé par l'ordinateur de l'ILIAC 1, par l'Université de l'Illinois. Donc, on voit bien les progrès faits depuis des années là-dessus.
Et toutes ces technologies que tu nous évoques, est-ce qu'on l'a trouvée dans des films, je sais pas moi, qui ont une quarantaine d'années, par exemple?
Eh ben, c'est pas si évident. Alors qu'évidemment, puisque c'est... Voilà, toujours le cliffhanger. Mais non, en fait, puisque à l'époque, l'IA, depuis 40 ans, l'IA, elle est faite pour opérer une tâche précise, automatisée. Terminator, sa tâche, c'est tuer Sarah Connor. Tout le monde s'en soit, on est en 84. Derrière, l'IA, même l'IA intelligence de Spielberg, c'est un enfant, il veut être aimé de sa mère. Derrière, donc on trouve très peu, finalement, d'IA qui vont créer la musique. Terminator ne chante pas, en tout cas je ne l'ai pas trouvé derrière. Il y a en fait 9 films que j'ai trouvés qui créent de la musique, qui sont plutôt récents. Il y a une scène de ChatGPT ou une scène de Her où l'équivalent de ChatGPT, oui, finalement va créer sous la voix de Scarlett Johansson une chanson à un moment donné avec Théodore qui est le personnage principal. On a un épisode de Black Mirror, donc la série célèbre qui est maintenant sur Netflix avec l'histoire d'une pop star virtuelle. Mais finalement, c'est des choses assez récentes. Étonnamment, il y a très peu de films qui parlent vraiment d'une IA qui créerait une musique.
Alors, on se projette, on va en 1984.
Oui.
Tu voulais nous parler de War Games. C'est pas la première fois que tu nous parles de ce film.
Ouais, alors en fait, on va parler de War Games pour ne pas en parler. C'est-à-dire qu'on est en 84, le film connu dont tout le monde a retenu, c'est War Games. Et en fait, je vais pas parler de War Games, je vais parler d'un autre film que tout le monde a oublié. Alors, probablement parce que c'est un mauvais film, en fait. Derrière, mais c'est un film de science-fiction, en fait, c'est une comédie romantique qui s'appelle, alors, tu vas rire, hein, La Belle et la Bête. Pas tout à fait. La Belle et l'Ordinateur.
La Belle et l'Ordinateur.
Voilà.
Wow.
En fait, c'est Electric Dreams en anglais, qui sonne mieux, de Steve Barron.
Avec une BO de Giorgio Moroder.
Exactement. Donc Giorgio Moroder, tout le monde se souvient. C'est les BO. À l'époque, c'est Giorgio Moroder ou Vangelis. C'est facile. Derrière, c'est une espèce de Cyrano de Bergerac. L'histoire, elle est simple. C'est un architecte qui achète un ordinateur. Il va renverser par mégarde finalement du champagne. L'ordinateur va péter les plombs et devenir virtuel et va créer. Et il y a cette scène incroyable. On est en 1984. Les gens n'ont pas à l'époque d'ordinateur chez eux. Et il va lui demander, pour séduire sa voisine, de créer une musique.
Donc c'est un peu un fantôme d'ordinateur, quoi, c'est ça?
C'est
une espèce
de il s'appelle Edgar derrière, et il va créer une musique un peu électronique parce qu'on est à l'époque. Derrière, les débuts de la musique qu'il va créer sont très mauvais, et il va y avoir cette espèce d'échange pour créer une vraie musique avec de l'âme, romantique. En fait, il va prompter, simplement, pour créer une chanson qui va devenir, pour ceux qui se rappellent, Love is Love de Boy George. Derrière, qui était très connu à l'époque.
C'est vrai.
Derrière, donc on trouve exactement cette scène d'une itération, finalement, d'une IA, d'un ordinateur à l'époque. On est en 84 derrière, et on voit déjà ce que peut donner une IA qui crée de la musique, en l'occurrence pour séduire sa voisine.
Et voilà, est-ce que ça marchait à la fin? Oui, je pense.
Évidemment que ça marchait, parce que c'est une comédie romantique, voilà, François.
Georges, c'était le chanteur de Culture Club. Hein,
c'était le chanteur de Culture Club, exactement.
Les plus anciens d'entre nous. Alors ça pose évidemment plein de questions sur le rôle de l'IA. Est-ce qu'elle est créative ou générative alors?
Eh bien voilà, elle est générative. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait au début, elle génère quelque chose. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire ce que c'est bien. Et donc ce processus de création... L'IA, pour qu'elle devienne créative, elle a besoin de quelqu'un, elle a besoin de l'artiste. Et finalement, elle est très bonne pour la page blanche, pour créer, pour changer de style, pour faire ce qu'on appelle des mash-ups, pour sampler, pour faire des nouvelles choses. Donc, pour faire des variations derrière, c'est là où l'IA générative doit être créée. C'est probablement pour ça qu'on l'appelle pas l'IA créative. C'est parce qu'elle va pas créer comme ça un super morceau. Ouais.
Pour l'instant, la création est réservée...
Et tant mieux.
À l'humain.
Et la vraie création, la vraie créativité reste l'apanage, on va dire, de l'humain. C'est probablement le message de ce film-là, tant mieux, dès 84. Ça reste vrai aujourd'hui, je pense.
Merci beaucoup, Xavier Perret.
Merci, François.
Toujours un plaisir que de te recevoir. Tu reviens quand tu veux pour, encore une fois, une autre démonstration de la tech et du cinéma. Et c'est avec Xavier Perret que se termine ce Tech & Co, la quotidienne, bientôt 21h30. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez raté un petit bout, et ben vous savez que les podcasts et les replays de Tech & Co vous attendent, bien évidemment. Et on sera là jeudi pour la dernière de la semaine, 20h, 21h30, radio, télé, bien sûr, comme chaque soir. À demain, avec plaisir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.